Alors on va continuer ce matin 2 Corinthiens et on va prendre 2 Corinthiens chapitre 10. On va lire ce chapitre. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence quand je suis au milieu de vous et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Et même si je me glorifie un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tels nous sommes en parole dans nos lettres, étant absent, tels aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné en nous amenant jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Nous ne nous glorifions pas des travaux d'autrui qui sont hors de nos limites, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous, dans notre propre domaine, en évangélisant les contrées situées au-delà de chez vous, au lieu de nous glorifier de ce qui a déjà été fait dans le domaine des autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Alors dans ce chapitre, l'apôtre Paul va se défendre contre les personnes qui s'opposaient à lui dans l'église de Corinthe. En fait, des personnes s'étaient infiltrées, des docteurs ou faux docteurs, s'étaient infiltrés parmi eux, parmi les Corinthiens, et petit à petit, ils avaient tourné l'église contre l'apôtre Paul. Et donc, par cette lettre, il va exhorter à la fois l'église, ceux qui marchent avec le Seigneur, et puis en même temps, il va essayer de corriger, ramener à la raison ceux qui s'étaient égarés, et puis reprendre aussi sévèrement ceux qui avaient tourné l'église contre lui. Alors on a lu ensemble, là dans ce texte, quelle était la principale accusation. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, mais Paul envoie des lettres sévères. Quand il écrit, oh là là, il y va. Mais quand il est présent, oh là là, il est chétif, il est faible, sa parole est faible, il n'a pas d'autorité. Donc il le dévaluait comme cela. Alors le serviteur de Dieu va se défendre et de sa défense, on peut tirer des enseignements pour nous-mêmes. D'abord, que dit-il pour défendre sa légitimité en tant que serviteur de Dieu? Regardez, on va relire le verset 1. Il dit, « Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence quand je suis au milieu de vous et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. » Déjà, on l'accusait d'être trop doux quand il était présent. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en avant Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. Quel était le caractère de Jésus-Christ? Comment était-il quand il était sur terre? Alors, il dit, moi, Paul, par la douceur et la bonté de Christ. Et quand on pense à Paul, ce qu'il était autrefois, le Saul de Tarse, c'était pas quelqu'un... il se laissait pas marcher sur les pieds. Au contraire, la Bible le décrit comme un homme violent. Un homme, vraiment, il persécutait l'église de Dieu. C'était, on l'imagine, sanguin ou colérique. Et là, ce que Dieu avait fait, c'est de ce Saul violent, il en avait fait un Paul qui était petit. C'est la signification de son nom. Il leur dit, maintenant, moi, Paul, par la douceur et par la bonté de Christ. Et c'est magnifique de voir un homme qui est transformé. Il est véritablement transformé. Même dans cette situation qui est conflictuelle, c'est des personnes qui sont en train de ravir l'Église et la tourner contre lui. Naturellement, il aurait pu réagir avec cette violence naturelle du pécheur, mais non. Il réagit avec la douceur et la bonté de Jésus. Puis il dit, moi, humble d'apparence. Et là, on a deux mots qui sont réunis. Il parle de la douceur, il parle de l'humilité. Et ce sont les deux mêmes mots grecs qui sont utilisés par Jésus quand il dit en Matthieu, « Moi, je suis doux et humble de cœur. » Voilà, c'est le caractère de Jésus-Christ. Et si c'est la caractéristique d'un serviteur authentique, quelqu'un qui est doux et humble, c'est aussi la caractéristique d'un chrétien. Est-ce que vous êtes doux et humble? Est-ce que nous sommes doux et humbles? On devrait être tous connus pour notre douceur et notre humilité de cœur. Tous. Il dit, il est écrit, le fruit de l'esprit, c'est la bonté, la bienveillance, la douceur. Et quand on regarde toutes les exhortations, je vous en lis quelques-unes à la volée. En Galates, par exemple, il est dit, frère, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. De la douceur. En Éphésiens, il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher en toute humilité et douceur. En Colossiens, il dit ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. En 1 Timothée, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche, entre autres choses, la douceur. Et puis, à Tite, il recommande de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Envers tous les hommes, même ceux qui sont difficiles. Être plein de douceur. Et donc Dieu, assurément, il nous veut remplis de cette douceur qui vient de lui, la douceur de Christ. Mais on reprochait à Paul sa hardiesse. Ailleurs, le terme, il est traduit par confiance, assurance, audace. Et probablement, bon, il y avait cette douceur qu'il regardait comme chétive, mais il y avait aussi, Paul, c'est Paul. Il a aussi, il avance avec assurance, et c'était quelque chose qui dérangeait probablement les opposants de Paul. Et on tournait ça plutôt, on disait, mais il est arrogant en fait. Il est orgueilleux, il a un désir de dominer, surtout par ses lettres. Mais quand on regarde, on se dit, eux, bien sûr, déformés, cette hardiesse, mais il y a une saine hardiesse. Et il y a un équilibre aussi dans le caractère. Finalement, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ était à la fois plein de douceur, d'humilité, et en même temps plein de courage, d'audace, de fermeté. Il disait ce qu'il faut dire, à la fois capable de tenir sa langue et en même temps capable de dire les choses quand il faut les dire. Et c'était Paul, et ça devrait être aussi chacun d'entre nous. Maintenant, qu'est-ce que dit encore Paul pour défendre sa légitimité en tant que serviteur de Dieu ? On disait qu'il marchait selon la chair. Alors Paul réplique, versets 3 à 5, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et il y a quelque chose d'indéniable au ministère de l'apôtre Paul, c'est la puissance du Saint-Esprit qui se déployait au travers de lui. Paul était dans le combat, mais il ne combattait pas par la chair. Il n'y a personne qui peut combattre par la chair, mais il combattait par les armes spirituelles. Et quelles sont ces armes spirituelles? C'est bien sûr la prière et la parole. Ce sont les armes spirituelles, la prière et la parole. Qu'est-ce qui est puissant par la vertu de Dieu? La prière et la parole. Et nos prières, elles sont efficaces. C'est Jacques qui dit ça à la fin de son épître. Il dit que nos prières sont efficaces. La prière du juste est efficace. Dieu entend le juste. Dieu nous entend. Quand on supplie, quand on réclame et on réclame, quand on persévère et on demande encore, il nous entend. Il entend la prière du juste. C'est important de se le rappeler. Et c'est pas vain, c'est spirituel et c'est efficace. Hein. Il faut se souvenir d'Élie quand voilà, il a invoqué pour la pluie, il a prié une fois et puis il est revenu, et puis encore, et puis encore, et puis encore, et puis encore, jusqu'à ce qu'il voit les prémices d'un petit nuage. Ça y est. On y arrive, c'est l'exaucement qui arrive. La prière est efficace. N'arrêtez pas de prier. Je ne sais pas ce que vous avez à cœur, mais n'arrêtez pas. Persévérez, persévérez. C'est efficace. Et puis, on a la parole de Dieu qui est puissante par la vertu du Saint-Esprit. On ne sait pas ce que peut faire une parole ou un verset. Cette semaine, je peux vous dire que j'étais frustré. Frustré dans une confrontation avec des personnes endoctrinées par l'erreur, le mensonge, l'hérésie, vraiment frustrées. Mais c'est bon de se souvenir des armes spirituelles. Nous avons des armes qui sont spirituelles. Et là où ce ne sont que des raisonnements humains ou diaboliques, hein, qui sont bien rodés, qui sont répétés, un peu comme un disque rayé, hein, on revient et on répète tout le temps les mêmes choses. Nous possédons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant, puissante, efficace, par la vertu de Dieu. Et par le Saint-Esprit, on peut renverser des forteresses, renverser des raisonnements, et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Quelle est cette connaissance de Dieu, ou comment parvient-on? C'est par Jésus-Christ, hein. La connaissance de Dieu, on y vient par la personne de Jésus-Christ, en accédant à une vraie révélation de Jésus-Christ, Fils de Dieu descendu sur terre, offert en sacrifice pour nos péchés. Et il y a des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Il y a des forteresses, hein, et des raisonnements qui paraissent inébranlables. On se dit, mais on ne peut pas faire tomber ça, c'est impossible. Ben si, Dieu dit oui. Moi, je fais tomber les raisonnements. Je les fais tomber. Cette semaine encore, j'étais en train de parler avec quelqu'un au téléphone et il ne cessait pas de répéter les mêmes choses. Un disque rayé. Vraiment un disque rayé. Il avait, en y réfléchissant, je me disais, mais comme un formatage des couches profondes du cerveau, de la conscience, du raisonnement, et certains sont prisonniers. Dans ces forteresses, ils sont prisonniers. Et ils n'arrivent plus à penser autrement. C'est impossible. Ah, forcément, après 30 ans, 40 ans d'endoctrinement, on leur a répété les mêmes choses et les mêmes choses. Ou bien 30 ans ou 40 ans d'athéisme, hein, où voilà, on a écouté encore les mêmes choses et les mêmes choses. Mais Dieu est puissant pour renverser des forteresses. C'est bon de se le rappeler. C'est pas en vain quand on s'appuie sur le Seigneur. Et c'est important aussi. Hein. L'important, c'est s'appuyer sur Jésus-Christ. Parce que sinon, c'est sûr, on va chatouiller le bas de la forteresse et on fera rien. C'est Dieu qui fait tomber les forteresses. C'est en demeurant en Christ. Cette semaine, j'étais en train de lire dans ma lecture quotidienne Jean 15, où Jésus dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On l'a chanté dans plusieurs chants. Et c'est clair que c'est en demeurant en lui seul que nous pouvons renverser les raisonnements qui tiennent prisonniers certaines personnes et ainsi porter du fruit. Paul dit « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. » Il peut y avoir un double sens ici. Hein. Ça peut être « Nous délivrons toute pensée captive. » Il y a des pensées qui sont captives, nous les délivrons. Elles sont prisonnières de raisonnement et nous les amenons à l'obéissance de Jésus-Christ. Ça peut être un sens, mais ce n'est pas faux de dire non plus que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est aussi vrai. Hein? Il y a une captivité volontaire. Paul était un prisonnier de Jésus-Christ, il le dit. Hein? D'ailleurs, serviteur de Jésus-Christ, c'est esclave de Jésus-Christ, littéralement. Donc on devient volontairement prisonnier de Jésus-Christ, parce que c'est ça le bonheur, être attaché à Jésus de son plein gré. Dieu veut nous délivrer du mensonge et de tous ses raisonnements. D'ailleurs, il est dit, la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Elle libère. Elle nous libère. Et vous serez réellement libre. Et la Bible est puissante par la vertu de Dieu pour conduire des hommes vers la liberté. Il ne faut pas se lasser de prier, pas se lasser de partager la parole de Dieu. Ensuite, Paul dit encore que pour... Voilà, il avance autre chose pour défendre sa légitimité. Regardez versets 6 à 9. On va les relire. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Et même, si je me glorifie un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Alors juste pour le premier verset, hein, quand il dit « Nous sommes prêts à punir toute désobéissance », au moment où Paul écrit la lettre, c'est la confusion dans l'église de Corinthe. La confusion. Il y a certains probablement qui sont restés fidèles à Paul. Il y en a d'autres, donc c'est ces imposteurs qui critiquaient Paul. Et puis d'autres, un petit groupe, qui s'étaient joints aux imposteurs en se disant « Ben, peut-être c'est vrai ». Et donc c'était la confusion. Et alors Paul prévient et il dit « Mais quand on y verra plus clair, alors eh bien, voilà, on écartera hein, ceux qui sont véritablement rebelles à la vérité, rebelles à ce que Dieu dit. On y verra plus clair et à ce moment-là, on punira toute désobéissance. » Et il y a quelque chose de certain, c'est que Paul avait reçu une autorité divine. Il parle, hein, il dit « Si je me glorifie un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée. » Il a reçu une autorité pour fonder, pour établir, pour former, pour enseigner, diriger, redresser, corriger. Paul a reçu une autorité. Et c'était une évidence par l'existence même de l'église de Corinthe, mais aussi de toutes les autres églises qu'il avait fondées. C'était Dieu qui avait choisi Paul pour cette œuvre. Le Seigneur a dit à Ananias dans le livre des Actes, au sujet de Paul, il lui a dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. » On lit encore que Jacques, Pierre et Jean donnèrent la main d'association afin qu'il aille, lui, vers les païens, Paul, et puis eux, vers les circoncis. Et donc, il y a eu une reconnaissance des apôtres vis-à-vis de Paul. Ils ont validé en quelque sorte son ministère. Et c'est important ça. Il y a une validation des hommes de Dieu vis-à-vis d'un ministère. Hein, quelqu'un qui est tout seul dans son coin, qui fait son petit truc, hein, et il n'y a aucune validation, bon, faut réfléchir, hein, faut se poser des questions. Et donc Paul avait reçu sans aucun doute une autorité qui venait d'en haut. Dieu l'avait établie. Et cette autorité, il dit, elle n'avait qu'un seul but, l'édification, le bien, faire du bien. Et en toute douceur, avec humilité, avec bonté, qui montrait aussi l'autorité du Seigneur. Paul était en train de construire avec des pierres vivantes par l'action de Jésus-Christ, du Saint-Esprit. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que finalement nous n'avons pas tous reçu une autorité dans le Seigneur Jésus-Christ? Je pense. On a une autorité. Vous avez une autorité. Vous êtes fils et filles de Dieu. Regardez 1 Pierre 2,9. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes une race élue, nous sommes un sacerdoce royal. Ça signifie qu'on est tous des sacrificateurs. Vous êtes sacrificateurs pour Dieu. Et le sacerdoce, ça désigne la dignité, la fonction du prêtre, du sacrificateur qui s'approche de Dieu. Ainsi, faisant tous partie du sacerdoce, nous avons une autorité par les armes spirituelles que Dieu nous a données. La prière, la parole. Et on doit annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Dieu a dit, allez. Il a dit, je suis avec vous. Il a dit, vous êtes mes témoins. Il a dit encore, vous êtes mes ambassadeurs. Nous avons une autorité. Dans Jean, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ça, c'est sa promesse pour chacun d'entre nous. On a eu un formidable plein air le dernier jour des soldes, voilà, il y a quelques semaines. Je vous encourage, hein, si vous avez envie de venir distribuer des évangiles dans la rue, mais vous avez autorité pour le faire. Ça vient d'en haut. C'est l'autorité que Dieu vous donne. Bientôt, on va faire un plein air. Vous êtes les bienvenus. Paul se défend encore par autre chose. Du verset 13 à 16, il va rappeler que finalement, cette église de Corinthe, ben, c'est lui, c'était son fruit, c'était son travail. Regardez verset 13 à 14, on va lire. Il dit, pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné en nous amenant jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Et quand on regarde l'église de Corinthe, eh bien c'était son champ, c'était le champ de Paul. C'est Dieu qui lui avait donné ce champ et c'est Dieu qui s'était servi de lui par la grâce de Dieu pour donner cette belle église. À la gloire de Dieu, bien sûr. L'église ne lui appartenait pas, c'est une évidence et il le sait bien. Mais c'est bien le Seigneur qui l'avait appelé à rester à Corinthe. Hein. Si vous vous souvenez dans le livre des Actes, Paul est arrivé à Corinthe, il a reçu une vive opposition des Juifs qui voulaient le mettre dehors, hein, finalement. Et il a même secoué la poussière de ses pieds en disant, ben, tant pis, hein, vous voulez pas de l'évangile, ben, j'irai vers les païens. Et à ce moment-là, la nuit, pendant une vision, le Seigneur lui a dit, ne crains point, mais parle. Ne te tais point, je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Si bien que Paul est resté un an et demi à Corinthe. Un an et demi. Un an et demi, c'est long, hein, vous savez. Pour Paul, l'évangéliste qui va par monts et par veaux et par ville et village, il est resté un an et demi à Corinthe. Et donc, Corinthe, c'était son fruit. Et c'était tout à fait légitime, normal, qu'il s'occupe, qu'il veille, qu'il prenne soin de cette église, hein, par ses lettres, qu'il les reprenne aussi. Maintenant, j'ai une autre question, c'est quel est votre champ? Quel est votre champ à vous? Vous avez un champ. On a tous un champ d'action. Quel est le champ d'action que Dieu vous a assigné? Souvent, notre activité professionnelle nous donne un champ d'action. Par l'activité que nous avons un champ d'action. Certaines personnes ne pourront entendre parler de Jésus que par votre témoignage, dans votre champ d'action. Parfois, c'est notre catégorie professionnelle. Parfois, ce sont les activités annexes, nos loisirs, hein, qui peuvent nous donner un champ d'action. Parfois, c'est notre situation familiale, le fait qu'on soit seul ou le fait qu'on soit en famille. Souvent, une mère, parce qu'elle est mère et qu'elle a des enfants, mais ça ouvre plein de portes. Hein. Il y a même des mères qui sont plutôt, timides, mais par le fait même des enfants, pouf, les portes s'ouvrent parce que c'est son champ d'action. C'est là où elle peut être efficace. Lorsqu'on est retraité, ben c'est normal. Il y a un contact facile avec quelqu'un qui a des cheveux blancs. Quand on est jeune, eh ben, on a un contact facile avec des jeunes. C'est notre champ. On a un champ d'action. Alors, eh bien, quel est votre champ? Quel est celui que Dieu vous assigne? On n'est pas tous naturellement des évangélistes. On n'a pas un don d'évangéliste naturel. Mais on est tous des ambassadeurs. On est tous chrétiens, sauvés par grâce. Et on a un sacerdoce de la prière et du partage de la parole, de notre témoignage. On a un ministère. Et il faut prendre à cœur notre champ. Jésus dit, vous serez mes témoins. C'est vous. Enfin, une cinquième chose, Paul conclut en disant que ce qui compte, c'est avant tout d'être recommandé par le Seigneur. Et on va lire les versets 17 et 18. Il dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Et c'est un argument de taille. Il était face à des hommes qui se prêchaient eux-mêmes, qui se mettaient en avant, hein, ils se recommandaient eux-mêmes, comme Paul le dit au verset 12. Alors que Paul, lui, il espérait simplement en Dieu et il se glorifiait de ce que Dieu avait fait au travers de lui. C'est tout. Et non de lui-même. Et vous savez, quand on veut paraître, on enfonce l'autre. On descend l'autre pour essayer de prendre un peu plus de hauteur. Et c'est ce qu'ils faisaient. Ils critiquaient, ils essayaient de trouver des défauts. C'est ce que faisaient ces docteurs juifs. Alors on sait qu'ils sont juifs à partir du chapitre suivant, où c'est clairement dit. Ils essayaient de détruire le témoignage de Paul. Alors Paul prend la chose à cœur, parce que forcément c'est la vérité. En s'opposant à lui et en s'opposant à ses écrits, à ses paroles, ils étaient en train d'attaquer la vérité. Parce que ils ne prêchaient que pour le bien des Corinthiens. Alors eux, ils allaient semer le contraire, semer le mensonge. Alors Paul le prend à cœur et voilà, il veut défendre et rétablir la vérité. Alors il dit, verset 17-18, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Si on veut comprendre ce texte, c'est bien d'aller voir dans le texte qui a donné l'inspiration à Paul. En fait, c'est un texte de Jérémie. On va prendre Jérémie, chapitre 9, et versets 23 et 24. Il est dit, « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Et l'homme, il est prompt à tirer de l'orgueil de lui-même, de ses capacités, de sa sagesse, de sa réflexion, son intelligence, ses raisonnements, sa richesse, sa beauté. Et il est prompt. En fait, c'est un réflexe de pécheur. Il se glorifie d'être ce qu'il est ou d'être devenu ce qu'il est. Parfois, c'est franc et grossier. C'est comme le nez au milieu du visage. Hein. On se dit, voilà, quelle horreur. Hein. Et puis d'autres fois, c'est plus subtil. C'est sous-entendu. On le lit entre les lignes. Hein, on ne l'affiche pas, mais c'est clairement dit entre les lignes. Et c'est une chose folle et insensée que de se glorifier de soi-même. C'est un aveuglement de ce que l'on est en réalité, c'est-à-dire une créature qui est faible. Nous sommes tous faibles. Quelqu'un disait encore dans la rue, mais c'est pour les faibles. Mais je lui dis, mais on est tous faibles, vous êtes tous faibles devant Dieu. Qui est fort devant Dieu? Personne. Et c'est vrai que plus on maîtrise un art, son art, plus on pense en être la seule cause. Si je réussis, c'est parce que j'ai travaillé, hein. Et c'est parce que je suis doué, ou parce que. Et plus l'homme aussi réussit à contrôler, à organiser, plus il pense qu'il règne sur sa propre vie. Il se dit, c'est moi qui tiens ma vie. Je l'ai. Et c'est une folie que de se glorifier de soi-même. Une folie. Dieu dit que si quelqu'un veut se glorifier, alors qu'il se glorifie, oui, qu'il se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître et de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Et c'est vrai, s'il y a une chose dont on peut se glorifier, c'est simplement d'avoir ouvert les yeux sur cette réalité et par la grâce de Dieu, cette réalité que c'est de lui que viennent toutes choses, de Dieu. Sa bonté a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et elle nous rend capables d'accomplir bien des choses. Sa bonté, elle nous a accordé une certaine part d'intelligence, d'ingéniosité, de dextérité, d'aptitude, qui ouvre des possibilités, c'est vrai. Mais souvenons-nous, hein, toute grâce et tout don excellent descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça vient d'en haut. Si je réussis, c'est Dieu, c'est la grâce de Dieu. Simplement Dieu qui l'accorde. Combien sont frappés dans leur élan? Les personnes glorieuses, frappées dans leur élan. Il suffit d'ouvrir un journal, hein, et on le voit partout. Et ceux-là, on finit par les oublier rapidement. Acteurs, chanteurs, artistes, sportifs, talentueux, PDG, qui sont arrêtés par ce qu'on appelle un coup du sort. C'est un coup du sort. Et on voit que la vie et la gloire de l'homme sont très fragiles. C'est un coureur automobile, voilà, une chute en ski et voilà, c'est fini. C'est quelqu'un, un acteur qui fait du cheval, une mauvaise chute. Voilà. On avait beau l'appeler Superman, mais arrêtez. Ou bien un autre acteur au volant d'une Ferrari. L'intelligence, c'est de savoir que c'est l'Éternel qui exerce le droit et la justice sur la terre. Et qu'ainsi, notre vie ne nous appartient pas. Et qu'un jour, la réalité de ce que nous sommes vraiment sera mise à nu. Un jour, les hommes vont paraître nus devant Dieu. Toutes leurs pensées, toutes leurs actions, tout ce qu'ils ont fait, tout sera exposé, leur mobile secret, leur gloire cachée. Tout ça, ça sera exposé. Sauf si on est venu se cacher en Jésus. Et si on est revêtu de Jésus, alors on ne sera pas nu. On sera revêtu de sa justice et gracié, pardonné. Ainsi, Dieu dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'il se glorifie de connaître Dieu. Se glorifier dans le Seigneur, c'est se glorifier du Seigneur, finalement, de ce qu'il est dans notre vie. Se glorifier qu'il est tout et venir se cacher en lui. Voilà. Merci Seigneur de m'avoir permis de réussir ça. Merci Seigneur. Ça, c'est quelque chose qui nous protège et qui conduit vers l'humilité. C'est finalement remettre les choses à leur place. Dieu régnant dans le ciel et moi ma place, eh bien, c'est petite créature devant lui, soumise et dépendante de lui. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Et là, par cette dernière parole, Paul clôt la discussion. Il ne s'était pas appelé lui-même, il ne s'était pas mis en avant lui-même, mais c'était Dieu qui a fait de lui ce qu'il était. D'ailleurs, il le dit, hein, il dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Et c'était Dieu qui avait vraiment mis son approbation sur Paul. Et c'était la grâce qui avait travaillé dans sa vie et qui avait produit toutes ces choses. Et donc tout ce que Dieu nous demande, c'est d'être fidèle. Fidèle jour après jour dans ce qu'il nous confie, de se glorifier en lui, seulement en lui. Que la grâce de Dieu qui veut se déployer dans nos vies ne soit pas vaine. Vous savez, Dieu veut faire des grandes choses, mais c'est notre infidélité et notre laxisme qui l'empêchent de déployer sa grâce. La grâce est là, elle veut couler comme un flot. Mais si je désobéis, ben la grâce ne peut pas venir. Elle, voilà, le robinet est fermé et c'est un filet. Dieu veut déployer sa grâce. Soyons fidèles, demeurons en lui. espérons, prions, travaillons, soyons constants. Qu'est-ce qu'un serviteur légitime? Qu'est-ce qu'un chrétien légitime? C'est quelqu'un qui manifeste le caractère de Christ par la bonté, la douceur, l'humilité, la confiance. C'est quelqu'un qui utilise les armes spirituelles, de la prière, de la parole. C'est quelqu'un qui a reçu l'autorité en tant que serviteur, en tant que sacrificateur. C'est quelqu'un qui travaille dans son champ, dans les limites que Dieu lui assigne. C'est quelqu'un qui se glorifie en Jésus seul et qui est donc recommandé par Dieu lui-même. On va avoir un moment de prière. Vous pouvez le remercier chacun.